DW. Le journal. Sandrine Blanchard.
Bonsoir et bienvenue sur les ondes de la Deutsche Welle. Nous sommes le jeudi 15 mai 2025 et il est 17h en temps universel, 19h dans nos studios en Allemagne. Au sommaire de ce journal, la possibilité d'une levée de l'immunité de Joseph Kabila qui est examinée au Sénat en RDC. La situation au Mali où les médias sont de plus en plus prudents suite à l'interdiction des partis politiques. Les autorités guinéennes qui suspendent plusieurs permis d'exploitation minière, avec la réaction de la coalition « Publiez ce que vous payez » dans ce journal. Et puis un point sur les pourparlers de paix en Turquie entre les délégations russes et ukrainiennes. Mais tout de suite, on commence par le Flash Info. Il vous est présenté ce soir par Marco Voltaire. Bonsoir Marco.
Bonsoir à toutes et à tous. Le Royaume-Uni veut créer dans des pays tiers des centres de retour pour les demandeurs d'asile déboutés. Des centres qui se trouveraient donc hors des frontières britanniques, dans une idée semblable à ce que projette de faire l'Union européenne avec les hubs de retour. C'est ce qu'a fait savoir Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni. L'ambition affichée étant d'accélérer les expulsions pour les personnes n'ayant pas le droit de rester au Royaume-Uni. Keir Starmer s'exprimait lors d'une visite en Albanie, un pays où l'Italie voisine a fait ériger des centres pour y externaliser les traitements des demandes d'asile de personnes secourues en mer Méditerranée. Le Premier ministre britannique n'a en revanche pas expliqué comment ces centres fonctionneraient et avec quel pays Londres est en discussion.
Human Rights Watch accuse Israël de faire du blocus de la bande de Gaza un outil d'extermination.
Depuis début mars, Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. L'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch estime qu'il ne peut plus s'agir d'une tactique militaire contre le Hamas, mais d'un outil d'extermination des Palestiniens. De son côté, les autorités israéliennes nient l'existence d'une crise humanitaire à Gaza, malgré les nombreuses alertes des Nations Unies et des organisations humanitaires sur place, qui décrivent la pénurie de nourriture, des médicaments et de carburant. Hier, c'est Médecins Sans Frontières qui a jugé qu'Israël créait les conditions d'une catastrophe humanitaire délibérée et des conditions pour une éradication des Palestiniens à Gaza.
La bande de Gaza dont les États-Unis continuent de vouloir prendre le contrôle.
Oui, c'est du moins ce qu'a répété Donald Trump, qui veut faire de l'enclave palestinienne une zone de liberté, selon les mots du président américain, qui réitère donc ses propos lorsqu'il avait dessiné son grand projet immobilier et touristique pour la bande de Gaza. Donald Trump qui clôture aujourd'hui sa tournée dans le Golfe. Dernière escale, les Émirats Arabes Unis. Le président américain a profité de cette dernière journée de visite au Moyen-Orient pour faire une autre annonce forte. Washington et Téhéran se rapprocheraient d'un accord sur le nucléaire. La déclaration a aussitôt fait chuter les cours du pétrole, alors qu'un accord avec l'Iran pourrait signifier la fin des sanctions économiques et permettre au pays de reprendre ses importantes exportations de pétrole.
Berlin soutient l'exigence de Donald Trump sur les investissements militaires au sein de l'OTAN.
Donald Trump qui veut que les pays membres de l'OTAN dépensent 5% de leur PIB à la défense, consacrent 5% à la défense, estimant que les États-Unis paient trop pour la sécurité des Européens. Et bien aujourd'hui, lors d'une réunion de l'Alliance Atlantique en Turquie, le ministre allemand des Affaires étrangères a plaidé en faveur de cet objectif. Johann Wadepool n'a toutefois pas fixé de date pour parvenir à ces 5%. Jusqu'à présent, l'Allemagne est parvenue une fois seulement depuis 2014 à dépasser les 2%. Mais le nouveau gouvernement du chancelier Friedrich Merz veut mettre en œuvre un vaste plan de réarmement du pays, alors que les dépenses militaires sont désormais exemptées du fameux frein à la dette.
Et puis pour terminer, la Libye, où un calme précaire est revenu à Tripoli aujourd'hui.
Oui, après trois jours de violents combats qui se sont déroulés dans des quartiers densément peuplés de la capitale libyenne, ces combats ont opposé les forces loyalistes à de puissants groupes armés qui se partagent la ville et des postes clés dans les institutions, des groupes que le gouvernement Tripoli, qui est reconnu par les Nations Unies, cherche désormais à démanteler. Certains de leurs leaders sont devenus si influents qu'ils représenteraient une menace pour le chef du gouvernement libyen. Malgré le début d'une trêve fragile ce jeudi, les écoles et les commerces sont restés fermés, tout comme le seul aéroport qui dessert encore Tripoli.
Merci Marco. Il est 17h et près de 5 minutes en temps universel. Tout de suite la suite du journal.
DW.
En République démocratique du Congo, un militaire des FARDC et un policier de la force navale congolaise ont été tués par la marine ougandaise. Ça s'est passé sur le lac Albert, en Ituri. L'incident s'est produit dans l'après-midi de mardi, alors que la marine ougandaise a ouvert le feu sur une patrouille de l'armée congolaise, apparemment confondue avec des miliciens de la FRPI, qui sont eux aussi actifs dans cette zone du lac. Plusieurs blessés sont également à déplorer du côté congolais. Selon des sources sécuritaires, ils ont été transportés en Ouganda avec leurs armes et équipements. Les autorités militaires des deux pays n'ont pas encore communiqué officiellement sur les circonstances de cet incident. Mais la société civile locale qui nous rapporte les faits évoque un non-respect des règles de navigation sur le lac Albert par les marines congolaises et ougandaises, ce qui aurait entraîné cet accrochage. Bienvenue, Kai Janat est l'un des responsables de la société civile de Kazeni. Et il s'exprime au micro de Marcus Loïka.
Les Ougandais, après avoir écouté que l'un de ses membres a été capturé par la force navale côté congolais, il y avait de la marine ougandaise qui était venue arrêter les pêcheurs congolais. Et c'est comme ça que la marine ougandaise voulait faire violence. Alors, ils ont eu à poursuivre même nos patrouilleurs qui étaient du côté congolais. Il y avait des échanges de coups. Effectivement, il y a des blessés, des morts. L'équipage était nombre de 9, 4 militaires, 2 policiers, 3 civils. Les autres civils sont à Oima. La patrouille ougandaise croyait que nos patrouilleurs sont des éléments de la FRPI. La souveraineté de notre pays n'est pas respectée. Alors que chaque fois, on parle de la mutualisation des forces, qui a aussi des accords bilatéraux relatifs à la réglementation des pêches. Fort et malheureusement, tout cela n'est pas respecté. Ils n'ont pas seulement violé aujourd'hui, chaque fois ils violent. Le problème, c'est la négligence de notre gouvernement. Souvent, nous avons l'habitude de dénoncer. Nous avons l'habitude d'alerter les autorités. Voilà les conséquences.
C'était bienvenue, Kai Janat, l'un des responsables de la société civile de Kazeni. Toujours en RDC, le gouvernement envisage des poursuites judiciaires contre le prédécesseur du président, Joseph Kabila, qui est pourtant sénateur à vie. Joseph Kabila est accusé de haute trahison pour son soutien présumé aux rebelles dans l'est du pays. La justice militaire réclame la levée de ses immunités, qui est une procédure actuellement en examen au Sénat. Et si cette procédure aboutit, eh bien l'ancien chef d'État pourrait être exposé jusqu'à la peine capitale. Ce serait une situation inédite et elle fait craindre des répercussions politiques majeures. C'est ce que nous explique notre correspondant à Kinshasa, Jean-Noël Bamouezé.
Le président Félix Tshisekedi accuse ouvertement Joseph Kabila de collusion avec les rebelles de l'AFC M23 actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Des accusations que l'ancien chef de l'État rejette fermement, exigeant des preuves concrètes. La procédure judiciaire s'est accélérée après des rumeurs faisant état du passage de Joseph Kabila à Goma le mois dernier, ville sous contrôle des rebelles à la suite d'une visite à Kigali au Rwanda. Ce déplacement supposé renforce les soupçons de Kinshasa qui estime que l'ancien président aurait séjourné en zone rebelle, un acte pouvant constituer un motif de comparution devant la justice militaire pour haute trahison. Maître Peter Ngomo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, insiste sur la gravité des faits reprochés.
Si nous devons nous référer à l'article 127 du Code pénal militaire, qui entend des guerres, tout Congolais qui sera coupable de trahison est puni de mort.
Ce serait une première historique pour un ancien chef d'État congolais, créant ainsi un précédent juridique dans le pays. Une situation potentiellement explosive, selon certains analystes. Le politologue Hubert Kabasubabo redoute en effet de lourdes conséquences.
Il y aura l'intensification de la fragmentation de la cohésion nationale, la polarisation et l'extrémisme politique, et la montée justement de frictions et des conflits tribaux. La désorientation ou même le frein au processus de paix.
Des voix dans l'opposition, notamment celle de Moïse Katumbi, dénonce une démarche à haut risque, accusant le pouvoir d'instrumentaliser la justice à des fins politiques. Pour d'autres, il est encore possible de désamorcer la crise par le dialogue national. Le professeur Frélimo Mouteba, président de l'Observatoire de la dépense publique, l'ODEP, plaide pour pour une désescalade.
La première personne qui doit aider à cela, c'est le président de la République lui-même. Il doit se comporter comme l'élu de tout le monde. Il doit être le premier à appeler les uns et les autres pour pouvoir parler.
Joseph Kabila a dirigé la RDC pendant 18 ans avant de transmettre pacifiquement le pouvoir à Félix Tshisekedi en janvier 2019. Jean-Noël Bamwese à Kinshasa pour la Deutsche Welle.
Et toujours en RDC, les conclusions du rapport d'autopsie dans l'affaire Fiston Kabeya établissent que le policier est mort des suites d'une hémorragie cérébrale qui aurait été provoquée par un choc sur la tête. Le médecin légiste ne s'est pas prononcé sur l'origine de ce choc qui pourrait aussi, selon lui, provenir d'une chute. La justice devra trancher. Fiston Kabeya est mort en détention le 29 mars dernier. Il avait été arrêté 4 jours plus tôt par les gardes de la première ministre pour ne pas avoir facilité le passage de son cortège et pour avoir tenu des propos jugés discourtois à l'encontre de la chef du gouvernement. Nous parlions à l'instant des relations difficiles entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Il n'est pas rare qu'il y ait des tensions entre un chef de l'État et la personne qui lui avait précédé. En Mauritanie, l'ex-président, par exemple, Mohamed Ould Abdelaziz, a été condamné en appel à 15 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Et si c'était justement la crainte d'un emprisonnement ou d'un procès qui poussait certains dirigeants à s'accrocher au pouvoir? Voir. Troisième mandat, quatrième mandat, parfois plus. En Afrique, les exemples ne manquent pas, avec parfois des présidents prêts pour un autre tour après des décennies de pouvoir. Réliou Koubakin revient sur cette situation.
Je continuerai de me tenir à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés, dit le nonagénaire Paul Biya à l'occasion de la fête de la jeunesse au Cameroun en février dernier. À 92 ans, celui qui totalise 42 années au pouvoir pourrait bien se présenter pour un nouveau mandat à la présidentielle d'octobre prochain. Comme lui, Alassane Ouattara pourrait se présenter à un quatrième mandat en Côte d'Ivoire, toujours en octobre, même si celui-ci, comme Paul Biya, ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat. Comme eux, Faure Yassingbé, Denis Sassou Nguesso, Paul Kagame, Théodore Obiang-Nguema notamment, ont passé des décennies dans le fauteuil présidentiel. Diaratou Diawara est politologue malien.
C'est seulement des mauvais conseillers qui leur disent « Non, changez la constitution, non, il faut rester le peuple ferme et ça devient une république en arrière. »
Kofi Kwaku, maître de conférence au Centre des études Chine-Afrique à l'Université de Johannesburg en Afrique du Sud, parle de dirigeants pratiquement saoulés par la puissance du pouvoir entre leurs mains qu'ils craignent de perdre.
Ils ont commis tellement de crimes qu'ils ont peur qu'en perdant le pouvoir, les choses vont se renverser, se retourner contre eux et on va sûrement les mettre en prison, ou bien les juger, ou bien les tuer.
Autre raison qui pourrait conduire les dirigeants à rester au pouvoir, la pression de l'entourage et la perte des privilèges liés à la fonction. Pourtant, dans la plupart des pays dans le monde, un ancien président africain reçoit une pension ou des indemnités. Les dirigeants africains qui quittent le pouvoir et remplissent les critères peuvent recevoir de la fondation Mo Ibrahim 5 millions de dollars sur 10 ans et 200 000 euros par an à vie. Le politologue malien Diaratou Diawara accuse par ailleurs certains dirigeants occidentaux, sans les nommer, qui, dans une tentative de préservation de leurs intérêts, pousseraient leurs homologues africains à rester au pouvoir, quitte à se faire renverser par des militaires.
Il y a aussi ceux qui viennent par les armes, qui, une fois installés, font des promesses pour dire qu'ils vont quitter le pouvoir très bientôt, mais qui aussi, en prenant goût au pouvoir, s'éternisent. Le dernier cas en date, ça c'est celui du Tchad et celui du Gabon.
Les dirigeants actuels du Tchad ont remplacé Idriss Déby Itno et ceux du Gabon Ali Bongo, qui ont passé respectivement 30 années et 13 années au pouvoir. Ce dernier a été renversé alors que la commission électorale venait de le déclarer élu président pour un troisième mandat.
Et puis au Tchad, le gouvernement indique que 35 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans un affrontement violent. Un affrontement survenu hier dans le Logone occidental et dont les autorités n'ont pas encore fourni davantage de détails.
Rendez-vous sur Facebook. DW Afrique.
Une manifestation a rassemblé plusieurs dizaines de personnes, notamment des femmes et des enfants, dans le village de Diafarabé, dans le centre du Mali. Une manifestation qui a été organisée pour protester contre un massacre qui aurait été commis lundi par l'armée malienne. Les manifestantes qui ont défilé hier accusaient les FAMA d'avoir exécuté 27 personnes. Selon elles, les soldats maliens auraient arrêté 28 hommes sur le marché du village, mais l'un des prisonniers aurait réussi à s'enfuir et à donner l'alerte, tandis que les 27 autres auraient été exécutés. Les forces armées maliennes n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'AFP. Toujours au Mali, les médias tentent de s'adapter à la nouvelle donne politique. Après l'annonce il y a 48 heures seulement de la suspension jusqu'à nouvel ordre des partis politiques et des associations à caractère politique, les regards se tournent désormais sur ce qui ne pourront plus recevoir ou interroger les responsables de ces partis et d'associations qui ont été dissous. Pourtant, les médias s'appuyaient essentiellement sur les acteurs de la scène politique et de la société civile pour alimenter leur programmation quotidienne. Alors comment est-ce que la vie médiatique s'organise sans ses interlocuteurs? Nous retrouvons Mahamadou Ken, qui est notre correspondant à Bamako, pour davantage d'explications.
La dissolution des partis politiques et des associations à caractère politique commence à avoir un impact certain sur la production médiatique, notamment pour la presse privée. Avec l'absence des acteurs politiques, radio et télévision doivent désormais modifier leur ligne éditoriale, particulièrement en ce qui concerne les émissions de débats politiques. Issa Kaba, directeur délégué de la chaîne privée Renouveau Télévision, explique que cette dissolution a bouleversé la composition des plateaux, mais aussi le contenu de sa chaîne.
Nous avons orienté nos débats vers les sociologues, les chercheurs. Les questions sont souvent orientées à ne pas tomber dans des débats contradictoires parce que jusqu'ici, on n'a pas assez de précisions sur la décision. Donc, nous faisons des débats de contribution, des débats calmes, des débats à deux invités souvent.
Cette mesure affecte également les médias numériques. Les chaînes de télévision diffusées uniquement sur Internet, dites Web TV, sont aussi impactées par les décrets présidentiels qui suspend les activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Boubacar Boukoum, web journaliste, qui recevait quotidiennement les acteurs politiques sur son plateau, déplore ce changement.
On a fait deux jours sans rien faire et puis on s'est retourné vers d'autres questions parce qu'il est vrai aussi qu'il n'y a pas que la politique dans les pays. Nous traitons d'autres questions d'actualité telles que l'utilisation de l'IA et de la gestion des données personnelles que ça entraîne. Nous traitons aussi la culture. Donc le théâtre, et les rap, et les cinémas. Il y a bien d'autres sujets que nous allons traiter en attendant que les acteurs politiques soient de nouveau disponibles.
Outre les débats politiques, les contenus de la presse écrite ainsi que des journaux radio ou télévisés subissent également l'impact de l'absence des partis politiques. Mahamadou Kana, Bamako pour la Deutsche Welle.
Avant la dissolution des partis politiques, les autorités en place au Mali avaient déjà suspendu les activités politiques en invoquant une raison d'ordre public. Et cette décision, Fiacre Ndayara Guégé, suscite de nombreuses réactions sur nos plateformes.
Bien évidemment, Chine, depuis Bamako, estime que le pouvoir rénové tout simplement pas organisé d'élections. Il ajoute, tôt ou tard, la démocratie sera restaurée. Bokori, également à Bamako, appelle à la prudence. Et selon lui, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Le pouvoir de transition veut d'abord instaurer la sécurité et la souveraineté du pays. Un avis que partagent plusieurs internautes, à l'instar d'Henri, basé à Douala, au Cameroun, qui pense que les partis politiques ne servent que leurs propres intérêts. Chris, de son côté, souligne que la mesure relève de la politique intérieure du Mali et le pays est dans son droit. Pour Toi à Abidjan, le multipartisme n'est pas forcément synonyme de démocratie. Enfin, Alpha, depuis Mamou en Guinée, conclut avec amertume, les militaires ne sont pas arrivés au pouvoir pour servir, mais pour se servir.
Merci Fiacre, restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes pour un nouveau regard sur les réseaux sociaux. Toujours au Mali, un tribunal doit examiner la réouverture du complexe minier de Loulou Gungoko Goto de Barrick Mining sous administration provisoire. La séance qui devait se tenir aujourd'hui a été reportée au 22 mai prochain. Autre pays de l'Alliance des États du Sahel, également avec un sous-sol très riche, c'est la Guinée. Mamadi Doumbouya retire leur permis d'exploitation minière à plusieurs entreprises qui sont présentes dans le pays. La Guinée dispose des plus grandes ressources connues de bauxite au monde, mais aussi de gisements d'or, de graphite et de mines de diamants. Mais la population guinéenne ne profite pas de ces richesses. Les motivations de la décision présidentielle n'ont pas été expliquées. Alpha Abdoulaye Diallo, le président de la coalition, publiait ce que vous payez pour la Guinée, rappelle toutefois que le code minier, qui a été révisé en 2013, permet aux autorités de retirer des permis sous certaines conditions et que par ailleurs, le secteur minier guinéen a besoin de davantage de transparence. On l'écoute.
Si les procédures sont respectées, donc aujourd'hui, ces retraits permettent d'assainir le cadastre minier parce que il y a beaucoup de permis qui ont été octroyés dans des conditions très peu dans les règles de l'orthodoxie financière. La plupart de ces permis ont été octroyés entre 2016 et 2021, donc avant l'avènement de ces nouvelles autorités. Et les acteurs de la société civile s'interrogeaient sur les critères d'octroi des permis.
Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer réellement, durablement, la gestion des richesses minières de la Guinée et que les Guinéens en profitent vraiment?
Il y a le concept de la guinéisation des entreprises minières. La plupart des entreprises minières sont des entreprises étrangères. Et aujourd'hui, il y a un appel pressant pour que les Guinéens aussi soient dans le secteur minier. C'est une chose. Mais il faudrait quand même que cela soit précédé de renforcement de capacité parce que le développement d'un projet minier vraiment nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de capacités à lever des fonds, mais aussi des capacités techniques pour une exploitation optimale des ressources.
Est-ce qu'il y a des exemples qui fonctionnent bien en Guinée dans ce secteur?
Oui, aujourd'hui nous avons le méga projet de Simandou qui a eu un coup d'accélérateur depuis l'arrivée des nouvelles autorités. En fait, la plupart du temps, ce qu'il faille éviter, que des sociétés puissent prendre vraiment des permis, soit de recherche ou d'exploitation, et qu'ils gardent ces permis pour faire de la spéculation, sans pour autant développer le projet. Donc, je pense qu'il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui montrent qu'il y a des sociétés qui sont des bons élèves, et il y a aussi des sociétés qui se comportent de moins en moins bon et qu'il faille vraiment mettre un coup d'accélérateur et aussi contrôler tout ça pour que la Guinée et ses entreprises puissent profiter, disons, de l'exploitation des ressources naturelles de notre pays.
Et vous pouvez retrouver dans quelques instants l'intégralité de cet entretien avec Alpha Abdoulaye Diallo, président de la coalition Publiez ce que vous payez pour la Guinée, en vous rendant sur notre site internet dw.com/français. En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam a été réélu avec 99,77% des voix à la tête du PDCI, 48 heures seulement après sa démission et en attendant le verdict attendu d'un juge d'Abidjan. La justice ivoirienne devait rendre sa décision dans l'affaire qui oppose une militante du PDCI, Valérie Yapo, à l'ancien patron du Crédit Suisse. Elle accuse Tidjane Thiam d'avoir pris la tête du parti avant de renoncer à sa nationalité française. Tout cela se passe à 5 mois seulement de la présidentielle et les Ivoiriens ne cachent pas leur indignation face au retour du concept de l'ivoirité sur la scène publique et l'exclusion de plusieurs figures politiques de l'opposition sur la liste électorale. Explication depuis Abidjan de notre correspondant Julien Adaillé.
Les Ivoiriens suivent de près la saga judiciaire visant Tidjane Thiam qui préside le plus ancien parti politique du Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Les uns s'inquiètent sur la stabilité dans leur pays, les autres regrettent que les candidats déclarés n'aient pas le temps de parler de leur programme de société, le débat politique ayant été noyé par des querelles politiciennes.
À 5 mois des élections, je n'ai pratiquement pas les informations sur les candidats, sur leurs projets. On parle plus des personnes que des projets. À 5 mois des élections, nous pouvons dire que cela nous inquiète, parce que c'est grave.
L'acharnement contre Tidjane Thiam cache les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire, la cherté de la vie, le manque de logement, l'augmentation des impôts, le pouvoir en place, utilise des artifices pour détourner les Ivoiriens sur des problèmes de justice.
Je pense que ce qui se passe actuellement, c'est de la manipulation politique parce que normalement, à 5 mois des élections, chaque candidat devrait présenter leur projet à la nation. Mais à 5 mois des élections, on constate que le pouvoir est en train de mettre les bâtons dans les roues de son opposant direct.
André-Sylvain Conan, journaliste et analyste, estime que si les candidats potentiels ne se bousculent pas pour parler de leur programme, c'est bien parce que le programme en période électorale n'est pas vraiment au centre des préoccupations frustration des électeurs.
Pour de nombreux Ivoiriens, c'est un buzz politique. La deuxième raison, c'est la personnalité même de Tidiane Thiam. Il a une personnalité quelque peu fascinante, y compris pour les médias. La troisième raison, c'est que très peu de candidats déclarés sont en réalité investis, à part le président Laurent Gbagbo, qui n'est d'ailleurs pas inscrit sur la liste électorale. La quatrième raison, le candidat du parti présidentiel de RHDP, qui n'a pas encore été connu. Et puis enfin, il faut bien savoir que les programmes n'ont pas toujours été au centre de l'intérêt du grand public en période électorale. C'est dû à l'histoire même de la Côte d'Ivoire.
Alors qu'il était menacé par une procédure judiciaire visant sa présidence du PDCI, Tidiane Thiam a annoncé lundi quitter la tête du parti avant de se représenter ce mercredi conformément à la loi électorale ivoirienne, dit-il. Julien Adaye, à Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Et nous retrouvons Fiacre Ndaya Guigé tout de suite pour un nouveau point de vue depuis les réseaux sociaux avec la tournée de Tariq Ramadan au Sénégal qui a récemment provoqué la colère et l'indignation des militantes féministes. Le prédicateur suisse d'origine égyptienne a été condamné en 2017 pour viol en Suisse et il est impliqué dans d'autres affaires de harcèlement sexuel en France. Or, il était invité à animer une conférence sur le thème de l'élévation spirituelle à Dakar. Un groupe de féministes a tenté de perturber cette manifestation pour dénoncer, selon elle, l'accueil d'un criminel sexuel. Alors, qu'en disent les internautes sur nos plateformes Fiacre ?
Bien évidemment, un sujet aussi sensible mêlant religion et accusations judiciaires. De nombreux internautes n'ont pas hésité à prendre la défense des prédicateurs. Mamadou, par exemple, estime que les féministes ont simplement voulu ternir l'image de l'islamologue Tariq Ramadan. Même avis pour Dao Kossi, basé à Lomé, qui voit en lui un homme engagé contre les injustices sociales dans le monde. Koulibaly, de son côté, ajoute que la plupart des féministes ne sont pas non plus des modèles dans nos sociétés. À l'inverse, certains internautes dénoncent une forme de complaisance. Michele, depuis Hambourg, en Allemagne, juge ridicule que des gens puissent nier des faits avérés. Pour lui, le soutien à un prédicateur accusé de viol montre à quel point le Sénégal a encore du chemin à faire en matière de respect de la dignité humaine. Le 11 mai, le compte La Vie sénégalaise a posté une vidéo sur le réseau social X montrant des femmes scandant Tariq violeur. Le commentaire accompagnant la publicité, la publication disait « Le Sénégal est peur en valeur ». Sur le même réseau social X, l'écrivaine Ndiaye Fatou Kane a également critiqué l'événement en dénonçant le fait que Tariq Ramadan soit accueilli comme un roi au Sénégal.
Merci beaucoup Fiacre Ndaye Guigé. Pour la première fois depuis mars 2022, c'est-à-dire à peu près depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, Kiev et Moscou devraient discuter sans intermédiaire. Des pourparlers de paix directe, donc, qui pourraient se tenir dès ce soir ou demain en Turquie. Mais ce qui aurait pu devenir un événement majeur avec un Donald Trump qui n'excluait pas une éventuelle venue de Volodymyr Zelensky, qui était prêt aussi à rencontrer Vladimir Poutine. Ceci s'est transformé en un rendez-vous diplomatique finalement de second rang, Marco Voltaire.
C'est la vieille ruse de la Russie, nous explique un ancien diplomate allemand. Cette ruse, c'est d'entamer des contacts, des négociations, puis de les prolonger et faire semblant d'être intéressé par le dialogue, mais en fait de ne pas avancer d'un millimètre. Sans surprise donc, Vladimir Poutine ne se rendra pas en Turquie. Le chef du Kremlin continue à jouer la montre et ne répond pas à l'invitation de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est entretenu, lui, pendant plusieurs heures aujourd'hui avec le président turc, pour ensuite annoncer qu'il ne sera pas non plus à la table des négociations. Il avait prévenu qu'il ne discuterait que d'égal à égal, soit avec Vladimir Poutine. Donald Trump, lui, termine sa tournée au Moyen-Orient aujourd'hui par les Émirats Arabes Unis. Pas d'escale donc en Turquie, alors qu'il avait fait planer le doute. Et pour définitivement enterrer tout espoir, le président américain a assuré à bord d'Air Force One ne pas s'attendre à des progrès sur l'Ukraine tant qu'il n'aura pas lui-même rencontré Vladimir Poutine. Au final, ce sont des délégations de second rang qui doivent se rencontrer. Moscou a dépêché à Istanbul des vice-ministres et un conseiller de Vladimir Poutine. L'Ukraine envoie son ministre de la Défense, chacun défendant une autre approche. La Russie exige d'abord des concessions territoriales, entre autres, avant de discuter de paix. L'Ukraine veut d'abord un cessez-le-feu. Il faut dire que les indicateurs étaient déjà au rouge en début de journée. Volodymyr Zelensky ayant qualifié de pure façade la délégation russe pour être traité en retour de clown par Moscou.
Et à 17h29, il est temps de nous consacrer au sport avec Sophie Serbini. Une bonne nouvelle au Congo-Brazzaville, la fin de la suspension de la Fédération de football par la FIFA. Une levée de sanctions qui va permettre aux diverses équipes nationales de rejouer.